15 mai 2003, un concert très particulier se tenait au Macédon à Toronto, une des plus prestigieuses salles de spectacle au monde. Sur scène, un quintet, formé de 5 des musiciens de jazz les plus renommés de l'époque. Kenny Garrett, Roy Hargrove, Herbie Hancock, Roy Haynes et Dave Holland. Si l'événement est spécial, c'est parce qu'il rend hommage au fameux concert tenu à la même date, dans le même lieu, 50 ans auparavant. Chacun des artistes mentionnés tient le rôle d'une des 5 légendes du pop présentes sur scène le 15 mai 1953. Charlie Parker au saxophone, Dizzy Gillespie à la trompette, Bud Powell au piano, Max Roach à la batterie et Charlie Mingus à la basse. Le concert est depuis entré dans la légende, souvent désigné par l'expression superlative et discutable « le meilleur concert de jazz de l'histoire ». Il s'agit de la seule fois que ces musiciens-là ont été enregistrés ensemble. Et c'est d'ailleurs aussi la dernière rencontre enregistrée entre Gillespie et Parker, avant la mort de ce dernier 2 ans plus tard. L'idée de voir ces 5 virtuoses sur scène pour cet événement unique mettrait l'eau à la bouche de plus d'un fan de jazz. Et pourtant, figurez-vous que ce soir-là, la salle était à moitié vide. Je m'appelle Luxi Bright, et vous écoutez le programme Jazz Story sur Art District Radio.
At this time, we would like to play a tune. It was composed by my worthy constituent, Mr. Dizzy Gillespie, in the year of 1942. We sincerely hope you do enjoy Salt Peanuts.
Salt peanuts. Salt peanuts. The name of the salt. Salt peanuts. We'll be right back.
s'est installé à New York depuis 1951, après avoir passé les 30 premières années de sa vie sur la West Coast. New York, c'est la capitale du jazz, et la décision pour un jeune musicien et compositeur ambitieux de s'y installer semble logique. Très vite, il commence à se faire une réputation, et à partir de 1952, il fait partie du groupe de Charlie Parker. Mingus admirait énormément Bird, qu'il considérait comme le plus grand innovateur de sa génération, même s'il était souvent agacé par le culte de la personnalité qui lui était vouée. If Charlie Parker was a gunslinger, there'd be a whole lot of dead copycats. Cela demeure un de ses titres les plus originaux. Mingus se retrouve donc très vite à fréquenter la crème de la crème du jazz moderne à New York. Un peu plus au nord, au-delà de la frontière, un concert est en train d'être organisé par la Toronto New Jazz Society. Le concert se tiendra au Massey Hall et sont invités Charlie Parker et son acolyte Dizzy Gillespie. Reste à trouver la section rythmique. Dans un premier temps, les promoteurs avaient choisi Lenny Tristano au piano et Oscar Pettiford à la contrebasse. Le premier refuse, suggérant à sa place Bud Powell, qui venait de sortir d'hôpital psychiatrique. En ce qui concerne le second, Max Roach aurait dit aux organisateurs qu'il s'était cassé le bras. En revanche, rien ne confirme que c'était réellement le cas, donc c'est possible que Roach ait eu une autre motivation. Faire jouer son bon ami Mingus, par exemple. Ce dernier est choisi pour remplacer Pettiford. La date est fixée pour le 15 mai. Jusque-là, pas de problème. Sauf que, manque de chance, le match de boxe entre Rocky Marciano et Jersey Joe Walcott, initialement prévu le 10 avril, est reporté au 15 mai. C'est un match de gala, la revanche à prendre pour Walcott après sa défaite contre Marciano lors de leur première rencontre en septembre 1952. Il faut donc rivaliser pour capter l'attention des habitants de Toronto. Malheureusement, il semblerait que ce soir-là, la plupart d'entre eux préfèrent assister à un duel de poing qu'un duel d'arpèges. Résultat, à peine la moitié des places sont vendues. Et les problèmes ne s'arrêteront pas là. Le soir du concert, Bud Powell est complètement ivre. Son génie était tel que cela ne s'entend à peine. Et on a du mal à croire qu'Oscar Goodman, le patron de Birdland, ait dû l'aider à monter au piano. Charlie Parker est sobre, mais en retard pour le début du concert, après avoir raté son avion. Une fois sur place, il doit jouer sur un saxophone Grafton en plastique car il a vendu le sien pour s'acheter de la drogue. Pour ajouter l'insulte à l'injure, Parker et Gillespie seront à nouveau en retard pour la deuxième partie. La raison ? Ils traînent au bar d'en face, le Silver Ale, à siroter du scotch en regardant le match. À leur grand chagrin, le boxeur afro-américain Walcott est défait par KO seulement 2 minutes et demie après le début du premier round. Malgré toutes ces frasques, le concert a bien lieu. Le set est court, le répertoire du pop classique, et les musiciens sont tous en très grande forme. À la base, il était prévu que le Toronto New Jazz Society partage les recettes avec les artistes. Mais, en raison de la trop faible audience, les musiciens, à l'exception de Charlie Parker, ne pourront pas être payés. Une audience faible, et en plus de cela, une réception, à l'époque, assez mitigée. Au final, ce concert n'était ni très bon, ni très mauvais, écrit un critique. Un concert qui aurait donc pu passer aux oubliettes de l'histoire, s'il n'avait pas été enregistré. Et il faillit d'ailleurs ne pas l'être. C'est Mingus et Max Roach qui ont l'idée, alors que ce n'était pas prévu au départ. La New Jazz Society se charge de l'enregistrement, et Mingus, en guise de paiement, récupère les bandes qu'il ramène à New York, où il réenregistre les sections de contrebasse qui étaient sous-enregistrées. L'année précédente, Mingus avait fondé avec Max Roach et sa femme Celia le label Début Records. L'initiative ne fit pas long feu, puisque Début ferme en 1957. Mais plusieurs grands artistes y ont fait leur début, dont Paul Bley, Thad Jones et Kenny Dorham. C'est sur ce label que sort le désormais très célèbre Jazz at Massey Hall, un concert du quintet. Alors qu'il a bien failli ne pas voir le jour, il est inscrit au Grammy Hall of Fame en 1995 et est aujourd'hui un élément indispensable dans n'importe quelle collection de jazz. Thank you.